chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter cette émission avec trois invités qui viennent de la République démocratique du Congo. À commencer par Justine Masika-Biamba. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci.
Sylvie Maunga.
Merci.
Et Céline Simissi.
Merci.
Justine Masika-Biamba, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît?
Merci beaucoup, Nathalie. Je vis à Goma et je travaille pour les droits de la femme et de la femme victime de violences sexuelles en particulier.
Sylvie Maunga.
Je suis défenseuse des droits de l'homme. Je travaille avec la société civile pour le Nord et le Sud Kivu. Et actuellement, je suis en train de travailler avec mes collègues pour le dossier qui se focalise sur la sécurité à Béni.
Et Céline Simissi.
Merci Nathalie. Je suis activiste des droits de la femme et de l'enfant, particulièrement à l'est du Congo.
C'est vraiment un plaisir pour nous, un honneur de vous avoir, mesdames, donc ici. Alors, au lendemain de la Journée internationale des droits de la femme, l'ONU a adopté une déclaration politique à minima sur la condition des femmes qui tente de préserver des acquis menacés dans plusieurs pays. Des siècles de discrimination, de patriarcat profondément enraciné et de misogynie ont créé un écart de pouvoir béant entre les genres dans nos économies, nos systèmes politiques et nos sociétés. Cela doit simplement changer, a affirmé Antonio Guterres. Alors on parle de recul dans certains pays et l'ambition cette année de protéger ce qu'on a plutôt que de faire avancer des dossiers. Alors ça, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'ONU qui l'a dit, Olof Skoog. Et donc, le constat, c'est que ça ne va pas assez vite, ce n'est pas assez rapide. Et les signataires s'engagent à éliminer et prévenir toute forme de violence et de pratiques néfastes contre les femmes et les filles, y compris via les réseaux sociaux. Ils promettent de lutter contre la traite des êtres humains et l'esclavage et de garantir l'accès à la justice, au soutien juridique, sanitaire et sociale à toutes les femmes victimes de violences. Pas grand chose de nouveau en somme, hein. Je vois un petit peu vos réactions. Voilà, c'est une déclaration politique à minima, comme on l'a dit. Justine, votre point de vue justement là-dessus, sur toutes ces années depuis Pékin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui là?
Il est vrai, ça fait 25 ans depuis Pékin. Et là, il y a toujours des déclarations. Les déclarations sont bonnes, mais nous voulons qu'on passe en action. Il faut qu'on puisse arriver à mettre en action tout ce qu'on déclare. On a parlé qu'on mette fin à la discrimination. Il y a plusieurs déclarations et même plusieurs résolutions. D'ailleurs, ces résolutions ne sont même pas connues.
La 1325.
Oui, la 1325, ça sera 20 ans bientôt. Il y a ces résolutions qui ne sont pas connues et qui ne sont même pas mises en œuvre. Il est vrai qu'il y a des stratégies nationales, mais malheureusement, ce sont des stratégies qui ne sont pas mises en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui ne donnent pas de moyens. Il y a la société civile qui se débat pour que ces déclarations, ces stratégies soient connues, mais malheureusement, les forces de la société civile ne sont pas aussi grandes pour que la société civile puisse continuer à se battre pour que les résolutions soient connues.
Alors, c'est les dames que vous êtes, hein. Vous travaillez vraiment sur le terrain. On est un petit peu choqués d'entendre carrément les Nations Unies dire protéger ce qu'on a plutôt que de faire avancer des dossiers. Sylvie,
Je pense que c'est la façon de s'excuser, hein, comme
dire qu'on n'a pas bien travaillé.
Et protéger ce qu'on a alors qu'on a jusque-là pas grand-chose. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils sont en train de vouloir accepter, qu'ils ne sont pas, en fait, ils ne sont pas prêts pour faire avancer la chose. C'est pour ça qu'ils cherchent à trouver des astuces. Et comme Justine a dit, non seulement qu'on doit essayer à pousser le dossier au niveau de la société civile, mais ça doit être quelque chose qui doit être pris par le gouvernement de façon transversale, voir comment est-ce qu'ils vont impliquer ça au niveau des institutions, au niveau même de policy, plutôt de règlement, au niveau de toutes les institutions, comment on fait la promotion, qu'on dit la discrimination positive, pour permettre à la femme aussi d'être impliquée dans toutes les institutions qui, elles-mêmes, en étant impliquées, elles vont mettre des lois et des pratiques qui vont permettre qu'il y ait cette promotion et l'implication, plutôt la praticabilité.
Céline, rentrons dans le vif du sujet. Béni, hein, toutes les trois, vous êtes là pour ça. Vous connaissez bien la situation à Béni. Est-ce que les femmes ont accès à la justice là-bas, au soutien juridique?
Ok, merci beaucoup. Et pour pointer la justice, j'aimerais un peu retourner un peu en arrière par rapport à l'affirmation des Nations Unies, préserver ce qu'on a. Est-ce que la femme au Congo a quelque chose. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous voulons préserver? La femme n'a même pas la justice. La femme n'a même pas le droit à la santé. La femme n'a même pas son enfant. Ses propres enfants ne sont pas à elle. Et nous parlons de préserver ce qu'on a. Est-ce qu'on a regardé tout ça pour parler qu'on préserve quoi? Pour mettre sûr d'abord que la femme a ça entre ses mains. Et alors on peut parler de préserver ça.
C'est dans la presse.
Un millier de femmes ont manifesté pour leurs droits le 8 mars à Islamabad, recevant parfois des pierres lancées par les islamistes. Plusieurs ont été blessées à Islamabad. La manifestation s'est terminée face à une marche antiféministe, séparée par un fragile cordon de policiers. Des manifestations pour les droits des femmes ont également eu lieu dans d'autres villes du Pakistan, notamment à Karachi, à Lahore, à Soukou, dans le sud. Des femmes se sont rassemblées en guise de protestation près du fleuve Indus, où l'on retrouve souvent les corps de femmes victimes de crimes d'honneur. Les islamistes avaient tenté de faire interdire ces marches et un parti politique religieux avait prévenu qu'il comptait les empêcher à tout prix. Les féministes et médias de Kinshasa et de Brazzaville ont eu à rappeler le vrai sens de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars. Cette journée se réduit à l'exhibition du port du pagne ou à l'organisation de défilés devant des officiels eux-mêmes très peu au fait du sens du 8 mars, a déploré le quotidien Le Potentiel. Le 8 mars n'est pas la fête du pagne, rappelé de l'autre côté du fleuve Congo, le journal Dépêche de Brazzaville. À Bouni, en Ituri, des centaines de femmes ont manifesté pour la paix dans cette province où plus de 700 civils ont été massacrés depuis fin 2017. Parmi elles, de nombreuses femmes déplacées du territoire de Jougou. Alors mesdames, dans tout ça, on a une bonne nouvelle. Le 8 mars dernier, le président guinéen Alpha Condé a élevé la militaire de carrière Mawa Sylla au grade de général de brigade. C'est une première dans le pays. Madame Sylla est secrétaire générale du Comité national de la défense et détentrice du fameux diplôme du Collège supérieur de défense à Pékin. Mawa Sylla a notamment participé à la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Alors, je reviens vers Justine Massé-Kabiamba. Béni, est-ce que vous pouvez nous dresser un plan de la situation là-bas?
Ok, ça fait au moins 2 ans où plus de 5 000 personnes ont été tuées selon les Nations Unies et 3 000 selon la société civile. Et les présumés personnes qui tuent la population, ce sont les ADF. Les ADF, ce sont des groupes armés ougandais qui massacrent, qui égorgent la population congolaise. Il est vrai que le problème a dépassé, je dirais, la MONUSCO. Elle est sur place. C'est la plus grande mission des Nations Unies qui existe, mais elle est dépassée par les événements. Même le gouvernement congolais, avec plusieurs opérations, ils sont dépassés par les événements. Le camp de formation des forces armées congolaises se trouve dans les savanes. Donc, ils n'ont pas une formation pour combattre dans la jungle. Et la situation à Beni, c'est dans la forêt. Donc, il faut que les militaires puissent avoir des formations pour combattre dans la jungle. Et nous, ce que nous demandons maintenant, nous croyons qu'il faut qu'on puisse former l'armée congolaise à combattre dans la jungle.
Sylvie Mahonga, la réforme de l'armée, est-ce que ça n'a pas déjà commencé, cette réforme, ou pas du tout? Est-ce qu'on en est toujours au même point au niveau des forces armées dans l'est de la RDC?
La réforme de l'armée, c'est vraiment une question très complexe. Si on regarde l'histoire de l'armée congolaise, depuis qu'on a commencé la guerre en 1994, c'est autant de négociations de groupes armés qu'on a fait entrer dans l'armée congolaise. Et actuellement, on est à face d'une armée avec plusieurs autres petites armées à l'intérieur de l'armée congolaise. Donc, on n'a pas une armée républicaine sur laquelle on peut compter pour faire face à de telles situations. Et c'est là que j'appuie l'option de Justine à dire... Il y a besoin réel de former cette armée. Mais entre-temps, les gens sont en train de mourir. Il faut qu'il y ait une intervention urgente. Il y a cette obligation de solidarité régionale et internationale à amener des forces spécifiques, des forces qui sont spécialisées à préserver les vies humaines.
Mais alors justement, Céline, comment on explique que des rebelles comme les ADF aient autant de pouvoir de nuisance encore aujourd'hui dans l'est de la RDC? Est-ce qu'ils sont vraiment si nombreux que ça?
Ça, c'est vraiment une bonne question. Et ça, c'est la question des Congolais de tous les jours. On se demande comment expliquer. Nous avons la MONUSCO, nous avons les Nations Unies, nous avons toutes les forces qui sont présentes en RDC. Mais personne n'est capable de voir d'où provient le problème.
Mais vous-même qui êtes là-bas, qu'est-ce que vous avez constaté?
Nous-mêmes qui sommes là-bas, nous avons constaté que beaucoup de gens qui tuent, selon les victimes ou bien les rescapés, ils disent que ce sont des groupes rwandais ou bien des gens alliés à l'Ouganda et qui sont là-bas en train de tuer de la population. Mais ce que nous voulons, nous demandons à la population, à la communauté internationale, de descendre, faire l'investigation. Nous voulons la vérité.
Alors au Tchad, la journée internationale des droits de la femme a été couplée à la semaine nationale de la femme tchadienne. Écoutons, mesdames, le reportage d'André Kodmadjingar à N'Djamena.
La Semaine nationale de la femme tchadienne instituée en 1990, qui s'étale sur 7 jours, est une période de réflexion et d'analyse de la contribution de la femme au développement du Tchad. En couplant cet événement à la Journée internationale de la femme, qui s'inscrit dans une perspective révolutionnaire, les autorités tchadiennes donnent la possibilité aux femmes un cadre idéal pour réclamer les meilleures conditions de vie et l'égalité entre l'homme et la femme.
Chaque 8 mars, vous allez voir ces femmes-là dans les débits de poissons pour s'amuser parce qu'elles se disent que c'est leur fête. Je suis désolée de le dire parce que je me dis que beaucoup ne comprennent pas pourquoi les autres ont marché un 8 mars.
Maître Noma et Clarisse, avocate au barreau du Tchad et présidente de l'association des écrivains tchadiens d'expression française. Pour elle, le 8 mars devrait être célébré autrement en associant les femmes désœuvrées dans les activités.
Si par exemple le 8 mars, on se regroupe quelque part pour réclamer par exemple plus de forage dans les localités où les femmes font des milliers de kilomètres pour chercher l'eau, pour entretenir leur famille, pour réclamer moins de violence ou non ou stop aux violences faites aux femmes, serait idéal pour moi. Je voudrais que l'on revienne à cela et non danser, réclamer des pains et autres, non.
Titimbay Mariam Thierry, alors directrice de la promotion de la femme dans les années 90, qui a lancé les toutes premières activités de la Sénafête au Tchad, estime qu'après 3 décennies, il y a un impact positif sur la vie de la femme tchadienne, surtout sur le plan administratif, même s'il reste beaucoup à faire.
Et avant, il n'y avait pas assez de femmes dans le gouvernement. Par exemple, en 82, il y avait une seule femme ministre, jusqu'en 90. Mais après 90, il y a eu beaucoup de femmes. De 3, on est passé à 4, 5, 6. Et il y a eu beaucoup de femmes qui sont passées au poste de hautes institutions. Mais malheureusement, elles ne sont pas solidaires.
Pour beaucoup, Louise Ngaradoumri, femme politique, l'institutionnalisation de la Sénafête au Tchad a libéré la femme tchadienne sous le poids de la tradition et de sa dépendance.
Vous savez qu'avant, quand le mari décède, eh bien, la femme est chassée comme une personne malpropre pour recommencer une vie à 30 ans ou 40 ans de mariage. Mais maintenant, toutes ces discriminations-là, il y a les textes qui couvrent et qui donnent la possibilité, et c'est par la voie de la Sénafête, ce qui amenait la femme tchadienne aujourd'hui à évoluer progressivement, mais c'est insuffisant. C'est resté dans les textes.
Pour beaucoup de tchadiens, il faut redimensionner les activités de la Sénafête à la prochaine édition en sortant du folklore pour poser des actes concrets, car elle est en train d'être vidée de son sens. André Kodmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Justine Masika-Biamba, on va parler des réparations, la question des réparations. Parce qu'on est dans une situation quasiment en guerre, des groupes armés qui attaquent des villageois, qui violent des femmes, qui tuent des populations paisibles. Et donc, il y a quand même la question de la réparation qui se pose. Donc, comment est-elle gérée, cette question de la réparation?
La question de la réparation, c'est un défi majeur dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles ou des victimes de guerre. L'année passée, il y a le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, qui a lancé le fonds pour la réparation des victimes. C'est une bonne chose. Mais nous nous posons la question, comment ces fonds seront gérés? Puisque souvent, il y a eu beaucoup de financements qui ont été mobilisés au profit des victimes de violences sexuelles. Malheureusement, la pyramide est renversée. Ces victimes, ce ne sont pas elles qui bénéficient de cet argent. L'argent est plus dans la logistique. Comme nous sommes dans une zone de conflit, il y a beaucoup de frais qui partent dans l'administration et la victime obtient les restes. Mais nous croyons qu'avec les fonds qu'a lancés le prix Nobel de la paix, la pyramide sera normale et que les fonds iront vraiment aux victimes. C'est une bonne chose, mais il y a toujours le gouvernement congolais qui a une responsabilité, surtout lorsqu'il est civilement responsable. Nous attendons vraiment un signal fort de la part du gouvernement qu'il puisse aussi dédommager ces femmes, malgré que l'argent ne peut pas vraiment couvrir ce qu'elles ont vécu, puisqu'elles ont été touchées dans leur personne interne, mais elles ont besoin de cet argent pour recommencer leur vie.
Alors justement, Sylvie Mwanga, on parle de réparation. Vous êtes spécialisée dans les problèmes de sécurité dans l'Est de la RDC, mais en parallèle, il y a aussi la lutte contre l'impunité. Parce que on parle sécurité, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser toutes ces questions de côté, se soucier de la sécurité, mais en attendant, il y a des coupables quelque part. Il y a des gens qui perpètrent des crimes. Donc, cette question de l'impunité, avec le nouveau gouvernement, le nouveau président Tshisekedi, est-ce que ça se passe mieux qu'auparavant ou est-ce qu'on est toujours dans la même dynamique? Est-ce que vous voyez un changement particulier?
Oui, c'est vraiment le souci actuel par le fait qu'on pensait que les choses vont changer, mais le président lui-même, il a déclaré qu'il ne va pas regarder dans le passé. Et c'est ce qui a même découragé les victimes. Puisque pour assurer qu'il y aura la protection dans le futur, il faut qu'on punisse les auteurs des infractions. Et c'est là, à tous les niveaux, nous avons plaidé pour qu'il y ait localement la punition de tous ces les seigneurs de guerre au niveau local. Mais on le voit...
Alors, il y a eu quelques procès, cela
étant.
Hein.
Effectivement. Comme on a cité, il y a le rapport, par exemple, de Mapping, qui a même évoqué certains officiers de l'armée congolaise, au lieu même de le mettre à côté, ils sont encore en train de fonctionner actuellement. Ça veut dire que le gouvernement endosse là encore cette
impunité. Donc il y a plus d'efforts à faire.
Oui, il y a d'efforts à faire au niveau interne, mais aussi d'efforts à faire au niveau externe et international, au niveau de la Cour pénale internationale.
Mais on ne comprend pas pourquoi ça ne va pas plus loin au niveau de la CPI, effectivement, dans cette région, depuis le temps.
C'est ça, il y a le lobby qu'on est en train de faire, qu'on active cette action, qu'on ouvre ce dossier, et que maintenant on amène ce genre devant la justice. Malheureusement, on commence à voir que parmi ce genre, il y a ceux-là qui viennent d'être tués, l'officier Delphin Kayembe. Il est parmi les gens qui ont été cités dans le rapport Mapping. Curieusement, le lendemain, on est en train de découvrir, on l'a égorgé, on l'a tué, on ne sait pas comment. On se pose la question si on n'est pas en train de chercher à cacher des traces.
Céline Simici, c'est toujours très complexe une situation de conflit. Il y a l'impunité, il y a les réparations, il y a la sécurité, et puis on parle aussi de dialogue. Alors, dialoguer avec qui, comment, pourquoi? Expliquez-nous un petit peu cela.
Bon, moi, je pense que le dialogue, c'est toujours important, quel que soit quoi. Parce qu'au moins, ça veut dire que les gens vont s'asseoir et parler. Et les Congolais doivent s'asseoir et voir le problème. Après, ils doivent associer les autres qui sont impliqués directement ou indirectement. Et ici, je cite les pays voisins. Il y a les groupes qui sont, on s'est dit, alliés aux forces étrangères et des gens qui sont alliés aux forces internes, les Congolais. Et je pense que ces deux parties-là doivent s'asseoir et ouvrir le dialogue, voir dans quelle mesure protéger la population, dans quelle mesure protéger la femme et les enfants.
Selon une étude publiée par le PNUD le 5 mars, 9 personnes sur 10 dans le monde, tous genres confondus, ont des préjugés envers les femmes. La proportion est la plus forte au Pakistan, devant le Qatar et le Nigeria, tous trois à plus de 99%. Andorre, la Suède et les Pays-Bas sont les meilleurs élèves, si l'on peut dire, parce qu'ils sont entre 27 et 40%. Tandis qu'en France, plus d'une personne sur deux a au moins un préjugé sexiste, et c'est 56%. L'agence de l'ONU a appelle donc gouvernement et institutions à utiliser une nouvelle approche politique pour faire évoluer ses opinions et faire chuter la statistique la plus glaçante de son rapport. Écoutez bien, 28% des gens dans le monde pensent qu'il est normal qu'un homme batte sa femme. Eh bien voilà, mesdames, c'est là qu'on va terminer. Hein, parce qu'en fait, tout ça, c'est la question de la mentalité générale. Et encore une fois, vous avez vu les chiffres, et c'est partout dans le monde. Et les Occidentaux ne sont pas épargnés, loin de là. C'est une mentalité généralisée, c'est universel. Et le gros problème qu'on a, c'est que ce sont les femmes aussi qui ont été conditionnées à penser de cette manière-là. Certaines femmes le pensent encore, parce qu'elles ont été conditionnées à travers les âges. Dans votre pays, vous la voyez comment, cette évolution, Justine, cette évolution des mentalités? Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que ces 10, 20 dernières années, on a quand même avancé au niveau de la mentalité? Parce que c'est la mentalité qui fait tout avancer.
Je dirais qu'au niveau de ces 10 dernières années, il y a eu des avancées. Ce n'est pas ce que nous attendons, mais il y a eu un tout petit peu. Pourquoi je vais le dire? Puisque normalement, les chefs coutumiers, les chefs de village croyaient que nous, en tant que femmes, n'avons pas la parole, nous ne pouvons pas prendre la parole là où se trouvent les hommes. Mais avec la sensibilisation et surtout la vulgarisation des textes qui promouvent les droits des femmes et le travail que nous faisons avec les confessions religieuses et la communauté, on a compris que la femme, c'est une personne égale à l'homme.
Sylvie Mwanga, en matière de sécurité, on parle de plus en plus de la présence des femmes aussi au sein des forces de sécurité, mais dans la gestion des conflits. Est-ce que là, on a avancé un petit peu? Parce que j'avais reçu il y a quelque temps des dames de la RDC comme vous, qui se plaignaient que les femmes n'étaient toujours pas impliquées dans le règlement des conflits. Est-ce qu'on en est encore là ou est-ce que ça bouge un peu?
C'est ça le problème, par le fait qu'on reconnaît les capacités de la femme, mais entre-temps, on ne lui donne pas l'opportunité de pratiquer ses capacités. Et c'est là même le problème qu'on est en train de connaître actuellement, le patriotisme, mais aussi le protectionnisme, où les hommes pensent qu'ils vont protéger les femmes.
On voit comme elles sont protégées. Hein.
Oui, effectivement, le mettant. Mais quelle protection? Il faut donner à la femme la chance de mettre en œuvre ce qu'elle a comme capacité. Par exemple, on a nommé un ministre des Affaires étrangères, mais on ne lui donne même pas la possibilité d'exercer, si on voit le président qui est toujours devant elle, pour aller parler de problèmes du pays. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose et son contraire au même moment. On ne donne vraiment pas à la femme d'exercer tel que c'est prévu. Ça devait se réaliser au niveau de donner à la femme cette possibilité de résoudre, d'adresser le réel problème, de faire l'analyse de problèmes tels que ça se présente actuellement. Ils savent d'où vient le problème. On est en train d'utiliser les enfants dans les armées.
Alors justement, Céline Simici, pour terminer, les enfants dans les armées, il y a une priorité à régler là. Si on vous disait tout de suite aujourd'hui, on peut faire quelque chose en matière de protection de l'enfance et de la femme dans cette zone là-bas. On a les moyens de le faire, on peut le faire. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Merci pour la question. Et je pense que c'est vraiment une urgence aussi. Et si aujourd'hui on doit faire quelque chose, c'est d'abord de faire assez qu'on stoppe ça rapidement et de voir comment canaliser les enfants dans des écoles. Ça doit être une priorité. Avoir les écoles qui vont recevoir ces enfants. La priorité, c'est l'éducation directe de ces enfants-là.
Merci beaucoup, Justine Massika Biamba.
Merci.
Sylvie Mwanga, Céline Simici, c'est un grand plaisir de vous avoir toutes les trois avec nous ici. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.
Arrête.